la compagnie Les Gladiateurs et la metteur en scène Béatrice Guturier dans le cadre de l'appel à projet de la lutte contre l'antisémitisme et les discriminations de la ville de Strasbourg présente hors les murs une action autour de Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés 1935-1945, des témoignages recueillis par Jean-Pierre Guénaud et édités dans un livre. Béatrice Guturier sur la motivation de son projet.
Je travaille toujours envers et avec la jeunesse et avec ce qu'on appelle les publics éloignés, entre autres les gens du voyage. Et mon travail d'artiste est d'aller au cœur de la société, et être aux proximités des gens et écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à ce que nous on présente. En fait, c'est un travail d'échange qui m'emmène par la suite à des créations de spectacles. Pourquoi ce projet-là spécifiquement ? Parce que ça fait partie de ma recherche, de mon travail, hein, je veux dire, de mes valeurs, et parce que ça fait partie aussi des thématiques sur lesquelles je travaille dans mes projets de création. Voilà. Et je suis obligée de parler de race, texte de Pascal Rombert, que je travaille actuellement et qui fait allusion, en tout cas qui parle de la Shoah. Donc c'est quand même ce texte pour moi fondateur qui m'a mis aussi sur cette voie. J'ai hésité à travailler sur ces témoignages parce que c'est dur à entendre, parce que c'est difficile, hein, et j'ai beaucoup hésité et je me suis dit voilà, à moi de vaincre ma peur et d'aller de l'avant aussi et de transmettre cette parole auprès de la jeunesse. En fait, je pense que le texte, les témoignages travaillent d'eux-mêmes en fait. Je ne me sens pas missionnée de véhiculer un message, par contre c'est un partage d'expériences et les témoignages pour moi parlent d'eux-mêmes en fait. Mais c'est important d'être accompagné, entouré par le facilitateur de parole, par les témoins, par le corps pédagogique aussi. C'est quelque chose qui s'est fait en commun. Ça ne se fait pas tout seul.
Une action immersive avec deux classes de 4e du Collège international de l'Esplanade de Strasbourg. Ce mardi 18 octobre, les élèves ont lu des extraits de paroles d'enfants devant Roland Lévy, enfant caché.
Avant la guerre, dans les quartiers populaires, l'antisémitisme était déjà bien développé. Les insultes et le mépris à notre adresse étaient monnaie courante. Les expressions « sale juif, sale lupin, retourne dans ton pays » revenaient très souvent.
Le fascisme en Allemagne et en Italie, ainsi que la guerre civile en Espagne, ne faisaient que l'amplifier.
Lazare. Les deux familles de mes parents étaient russes, l'une de Kiev, l'autre de Moscou. Ils étaient arrivés en France en 1917, après les révolutions.
Elles avaient fui par la Finlande. Elles connaissaient la France. Elles y venaient en vacances.
Mes deux parents ont appris le français avant même de parler russe. Ils parlaient aussi l'anglais et l'allemand.
Dans leur milieu très privilégié, le travail n'était pas du tout la préoccupation première. Malgré les aléas de l'histoire, ils avaient préservé leur fortune et mené une vie dorée, brillante et vraiment sans souci.
Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le conseil des ministres entendu, décrétons.
Article 1er. Et regardez comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Philippe Pétain, 3 octobre 1940.
À cause de l'étoile jaune, ma tante, esthéticienne, cour de l'intendance, a perdu son emploi. Elle est revenue au salon pour se faire coiffer.
La personne qui lui faisait son shampoing s'est exclamée.
Et puis merde ! Je refuse de laver la tête d'une juive !
Ma tante est sortie avec un foulard sur la tête plein de savon. Prenez.
En 1982, j'ai porté l'étoile, puisque j'avais l'âge. J'avais plus de 7 ans. Un jour, en revenant de l'école, j'étais en larmes parce qu'on m'avait un petit peu bousculé dans la cour. Maman m'a dit
« J'irai avec toi demain voir la directrice. »
Et le lendemain matin, maman m'a habillée avec, comme pour un dimanche, et elle aussi, elle s'est habillée d'une façon très élégante.
Elle avait coincé sa pochette, bien sous le bras, pour cacher un petit peu l'étoile. Et nous sommes partis voir la directrice, qui nous a reçus dans son bureau d'une manière assez froide.
Maman lui a expliqué ce qui m'était arrivé, mais elle le savait déjà. Et maman s'attendait à quelques paroles de réconfort ou de soutien.
Enfin, à une toute autre réponse que celle qu'on a obtenue, puisque la directrice nous a dit textuellement
« Je ne peux pas être derrière chaque enfant dans le cours de l'école. Il me semble que le mieux serait que Cécile ne vienne plus à l'école. »
C'est donc ce que j'ai fait. Je ne suis plus allée à l'école. Cécile.
À 4 ans, quand ils ont pris la décision de me cacher, ils n'ont pas discuté devant moi. Ma tante m'a accompagnée pour aller chez mes parents adoptifs et m'a dit « Cet après-midi, tu vas te promener et tu peux emmener toutes tes poupées. » J'ai trouvé ça quand même un peu inquiétant et je suis partie. J'ai embrassé ma mère comme si j'allais faire un petit tour. Elle avait les larmes aux yeux.
Plus tard, mes parents adoptifs m'ont raconté que ma mère était malade, qu'elle était dans un hôpital et qu'elle allait le week-end dans la famille pour se reposer. On pouvait me raconter n'importe quoi.
J'avais 4 ans. Et très rapidement, j'ai commencé à me déshabituer de mes parents.
Je ne les reconnaissais plus très bien. Louise.
J'avais à peine 6 ans. J'éprouvais un sentiment de honte et de culpabilité.
Et je me cachais derrière les arbres de la cour de récréation de mon école publique.
Caroline.
Ça semble tout à fait paradoxal, mais moi, j'ai été très heureuse. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti l'absence de mes parents. J'étais bien. J'étais comme une petite paysanne, tout à fait adaptée aux gens, aux lieux, aux bêtes. Je gardais les chèvres. J'allais chercher l'herbe pour les lapins. J'étais vraiment très heureuse. Avant la guerre, j'avais été très maladive. Maman disait toujours que j'avais eu toutes les maladies enfantines possibles et imaginables. Et là-bas, je n'avais été malade qu'une seule fois. Même pas un rhume, alors que les hivers étaient rudes pendant la guerre et que la maison n'avait ni eau, ni électricité. C'était vraiment le Moyen-Âge. On vivait en autarcie totale. Henriette.
Roland Lévy, né en 1939, aujourd'hui directeur de recherche physicien au CNRS, a été enfant caché de l'âge de 2 à 6 ans.
Ma famille est venue en Alsace avec les armées romaines. La tribu de Lévy a été prise par les Romains pour venir en Alsace et nous avons des arbres généalogiques qui remontent à 1500 et on a toujours été en Alsace. Le 1er septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. Les Alsaciens sont évacués de Strasbourg vers Périgueux. Ma mère n'a pas suivi ça. Ma mère travaillait dans une entreprise qui avait une succursale à Boulogne-sur-Mer et elle est partie à Boulogne-sur-Mer avec son bébé qui avait quelques mois et sa mère, ma grand-mère. Le 22 juin 1940, c'est l'armistice. Gouvernement de Vichy, zone occupée, zone libre. L'Alsace est annexée au Reich. Mon père est fait prisonnier. Les Alsaciens peuvent rentrer en Alsace, sauf les Juifs. Ma mère est donc à Boulogne-sur-Mer et en même temps, elle est interprète à la mairie. Un soir, un soldat allemand lui dit qu'il a la liste, elle est là, j'ai récupéré ça, il a la liste des personnes à arrêter et il lui conseille de partir assez rapidement. Dans la nuit, ma mère et sa mère et moi partent à Terrasson en Dordogne. En janvier 1942, c'est la conférence de Wannsee. Je ne sais pas si vous l'avez étudié. C'est le départ de la solution finale. Donc il faut exterminer tous les Juifs. En mars 1942, à Terrasson, il y a la première rafle des Juifs apatrides, c'est-à-dire ceux qui, avant la guerre, venaient de l'Europe de l'Est et s'étaient réfugiés en France. En mai 1942, c'est le port de l'Étoile, la zone libre, tout ça, je vous passe tous les détails. Donc ma mère pense que après la déportation des Juifs apatrides, ce sera forcément le tour des Juifs français. Elle veut sauver son fils et demande autour d'elle si quelqu'un peut à la campagne, etc. Donc, deux, trois maisons à côté de là où habitait ma mère, il y a deux sages-femmes qui disent « Oui, nous, on a de la famille, on va demander. » Et en janvier 1942, on me dit « Mais voilà, on t'emmène chez Tonton et Tata. » Tonton et Tata étaient un couple qui n'avait pas d'enfants. Ils habitaient à Pontport. C'est un petit village de quelques maisons au sud de Bergerac. C'est une maison toute simple, alors... Les petits-enfants sont toujours étonnés, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, et il fallait chercher de l'eau dehors et tout, mais ça se passait très bien. Le tonton est mécanicien et la tante est couturière, et ça se passe bien. Et comme le disait tout à l'heure le reportage que vous avez fait, moi j'étais très très heureux. La famille était laïque, et il y avait un grand climat de tendresse et de bienveillance, et pendant toute mon enfance là-bas, il n'y a jamais eu le moindre problème de conversion. Alors, ce qui est extrêmement important, tout le monde dans le village savait que j'étais juif, sauf moi. Parce que quand on arrive à 2 ans, qu'on soit juif, musulman, chrétien, catholique, protestant, je ne savais pas ce que j'étais, mais eux le savaient. Parce que quand j'étais adulte, plus tard, les gens du village me racontent, on savait bien que le tonton n'avait pas de neveu. Et ce petit neveu qui apparaît subitement, ça peut être qu'un petit juif. Alors je voudrais encore préciser que il y a eu, entre ma famille et ceux qui m'ont élevé, il n'y a eu aucun rapport d'argent. C'était totalement désintéressé. Après la guerre, mon père était prisonnier de guerre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Hitler n'a pas touché aux prisonniers de guerre juifs. Il a respecté les accords de Genève. Donc j'ai fait connaissance avec mes parents, j'avais plus que 6 ans. Et quand mon père est revenu de captivité, mes parents n'avaient aucun moyen. Donc, je suis retourné dans mon village pendant quelques années, où je suis alors, à ce moment-là, allé à l'école. Mon retour à Strasbourg n'a pas toujours été très facile. D'abord, je vivais à la campagne, très heureux, sans eau, sans WC, sans chauffage. Tout allait bien. Mes parents parlaient alsacien entre eux. Ils parlaient parfaitement le français, mais c'était que l'alsacien à la maison. Moi, je parlais le patois du Périgord. C'était un peu difficile. Ensuite, j'ai dû apprendre les bases du judaïsme. Je ne connaissais pas. J'étais allé au catéchisme. Je peux vous accompagner. Je connais tout. Je connais même en latin. Mais le judaïsme, je ne connaissais rien. Mais mes parents, à ce moment-là, ont été d'accord que si je travaille à l'école, je peux retourner dans mon village tous les étés. Donc tous les 14 juillet, pendant toute ma jeunesse, j'étais dans le train. L'oncle, le tonton venait me chercher. Et puis je travaillais au garage pendant tout l'été. Et puis après, retour à Strasbourg. Ce sont des gens ordinaires qui, d'après moi, ont fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai un grand sentiment de reconnaissance et d'attachement. Je retourne chaque année là-bas. J'ai emmené là-bas, évidemment, ma femme. J'ai emmené mes enfants, j'ai emmené mes petits-enfants. Et chaque année, je me fais un devoir, de quoi qu'il arrive, d'aller sur leur tombe. Leur médaille des Justes, je ne sais pas si vous savez, mais je peux vous expliquer, leur a été remise en 2005. Je crois que c'est des événements qui ont influencé toute ma destinée. Comment l'être humain peut arriver à ce stade de persécution? Je ne comprends pas. Et il faut, vous, les jeunes, que vous sachiez et que vous compreniez que tout peut recommencer si on ne vous éduque pas correctement à la tolérance et à la différence dès le plus jeune âge. Je crois que peu importe les origines, il faut avoir de la tolérance. Je crois que seul le dialogue, la connaissance entre eux et le respect de l'autre peuvent amener la paix.
Richard Sancho Andréo, facilitateur de parole.
Que certains enfants, pas tous malheureusement, beaucoup sont partis en déportation et sont morts, mais un certain nombre de milliers d'entre eux ont été cachés en France. Et ils ont été cachés face à une injonction de leurs parents. Alors pourquoi? Eh bien justement parce que les parents avaient un grand sentiment de protection de leurs enfants. Ils savaient que eux, peut-être qu'ils allaient disparaître, mais que leurs enfants resteraient sur cette terre pour pouvoir poursuivre ce que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient engagé.
Et Francine Méran, psychiatre et artiste de la mémoire, de rappeler l'importance des témoignages.
Alors déjà, je pense que parler des enfants cachés aux enfants, c'est important parce que ça renvoie à leur propre âge. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut leur toucher. Ensuite, ce qui est douloureux pour les enfants cachés, c'est que le drame des enfants cachés a été méconnu très très longtemps. Ils n'avaient pas le droit de parler, il n'y avait que les déportés qui avaient le droit de parler et eux avaient leur propre drame. Et c'est très tardivement, grâce à Serge Klarsfeld, qu'on a pu parler de l'existence du traumatisme d'être enfant caché. Et enfant caché, pour un enfant, ça lui parle de dire qu'il a plus le même nom, de leur expliquer tout ça. C'est quelque chose qui touche les enfants. Et pour moi, c'est aussi important de dire qu'il y a des gens qui ont survécu, même si la majeure partie des gens ont été assassinés. Mais de dire que quand on survit, on arrive quand même à remonter la pente, on arrive quand même à faire quelque chose. C'est quelque chose de symbolique de la force qu'on a en soi, tout être humain, pour se remonter quelles que soient les douleurs et les souffrances. Et dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu même leurs propres souffrances. Et voir le destin d'enfants cachés qui se sont remis en ayant perdu leurs parents, en ayant été trimballés d'une maison à une autre, c'est quelque chose qui est encourageant pour leur propre vie à eux, pour se battre dans la vie.
Vous avez donc ce sentiment qu'ils se sentent moins légitimes à parler de leur expérience. Alors, ils étaient souvent très jeunes. Monsieur Lévy n'avait que 2 ans au moment où il a été caché dans une famille en Dordogne. Ils se sentent moins légitimes. Il a fallu du temps pour prendre la parole et pour dire « nous aussi, c'est un trauma de la Shoah, en fait ».
On a considéré qu'on les avait protégés. Pour les gens autour, ils avaient été protégés. Qu'est-ce qu'ils avaient à dire? On s'est séparés d'eux. Une maman s'est séparée d'eux. Elle était en larmes. Elle avait qu'une séparation. On l'a mis à un endroit où on a estimé qu'il serait heureux ou tranquille, ou en tout cas protégé. À la sortie, qu'est-ce qu'il pouvait raconter de ce qu'il avait souffert. Ils étaient à la campagne, dans des maisons parfois bien. Les parents étaient en ville, avaient des cartes de rationnement et ne pouvaient pas manger, avaient peur toute la journée d'être raflés, d'être dénoncés. Eux, ils étaient a priori, pas toujours, hein, pour certains dans des endroits tranquilles, ils n'avaient aucune raison de se plaindre. Leur souffrance, elle n'était pas entendable. Après, des années après, il y a Betty Grimbert qui vient de sortir un livre grâce à Sabine Fessard. Et dans ce livre, elle l'explique très très bien que ce qui a été essentiel pour elle, c'est d'une part de pouvoir savoir où étaient ses parents, puisque ses parents ont été assassinés dans les camps, de savoir où étaient ses parents. Donc déjà, c'était une grande question, que sont devenus mes parents? Et la deuxième, est-ce que ma souffrance peut être entendue comme une vraie souffrance? Comme le dit Roland Lévy, sa femme peut dire, oui, il a des traumatismes, alors que lui dit qu'il n'en a pas. Et bien, ces traumatismes, c'est important qu'on ait le droit d'en parler et qu'on soit écouté. Et je pense qu'après la guerre, en général, les gens avaient qu'une envie, c'est de se tourner vers la paix et de guérir du traumatisme. Et ces enfants qui voulaient parler, on n'avait pas envie de les entendre. Le plus gros traumatisme, c'est le retour chez les parents. Ils n'imaginaient pas revenir. Ils ne retrouveraient rien de ce qu'ils avaient connu avant. C'était pire quand les parents les ont cherchés. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas envie de partir. S'ils étaient bien, hein, je m'entends. S'ils étaient bien là où ils étaient. Et c'était un vrai traumatisme que de redevenir juif, éventuellement. D'entendre parler yiddish alors qu'ils ne connaissaient pas le yiddish. De devoir aller avec des inconnus. Parce que c'était des inconnus. Ils avaient été cachés 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois sans nouvelles. Et aussi parce que ses parents, ils avaient eux-mêmes vécu la guerre, ils avaient leur propre traumatisme, et donc ils n'étaient plus les mêmes qu'avant la guerre. Et tout ça, c'était cette cassure, une nouvelle fois. Il parle de deux naissances, la naissance de départ et la nouvelle naissance quand ils reviennent chez les parents. Pas la naissance quand ils vont en tant qu'enfant caché, être caché, mais c'est au moment du retour des parents, et beaucoup ont été mutiques. Par exemple, Claude Lévy a été mutique 3 mois quand il est revenu chez ses parents. Un autre monsieur, Albert Reiss, pareil, a refusé de parler pendant je ne sais plus combien de semaines. Beaucoup ont refusé de partir. Maurice Schiff ne voulait pas partir non plus avec son père. Donc, je veux dire, ça a été très, très traumatisant aussi, cette situation-là. Ça devait être très, très traumatisant pour les parents aussi. Mais je pense aussi qu'il y a des parents qui, après, n'étaient pas en état de s'occuper d'un enfant aussi. Hein. Et puis, il faut aussi voir que c'est l'après-guerre. Il n'y avait pas d'argent. Peut-être à la campagne, ils étaient parfois mieux dans les maisons. Après, il y a des enfants qui ont été battus dans les maisons, qui ont servi comme garçons de ferme, qui ont été maltraités, qui ont été dans des orphelinats. Il y a des enfants qui ont une vie terrible pendant la guerre, même quand ils étaient cachés. Il y a des enfants qu'on a convertis. Mais il y a des enfants, je pense au rabbin Fari, par exemple, le rabbin qui est décédé il y a maintenant 2 ans peut-être, qui lui a été caché avec son frère dans une famille où ils ont été élevés comme juifs, dans une famille protestante pendant la guerre, où on continuait à leur apprendre les prières, à leur faire dire les prières pour garder le lien avec leurs parents. Ceux-là n'ont pas eu de problème pour retrouver leurs parents, mais ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, Nathalie Zaïdeh a écrit un livre sur les enfants cachés, et dans ce livre, elle explique bien qu'il y a des enfants qui faisaient semblant d'être chrétiens pendant la guerre et qui, dans leur tête, le soir, racontaient encore une chanson en hébreu que leur racontait leur maman, une prière, pour garder bien cachés au fond de soi leurs origines. Mais tout ça, c'est toutes les difficultés des tiraillements entre les différentes parts de soi que les enfants cachés ont dû vivre.
Roland Lévy et sa motivation à témoigner inlassablement.
Bon, c'est un message pour montrer d'abord que dans la vie, il y a des gens absolument extraordinaires, alors qu'il y a des crapules, mais il y a aussi des gens merveilleux qui ne vous connaissent pas, qui font des choses. Et c'est aussi en reconnaissance de ceux qui m'ont élevé. Au début, je ne voulais pas parce que je me disais que ça n'intéresse personne. Et puis, j'ai été demandé. Et maintenant, quand on me demande, je témoigne. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pars en Dordogne, là où j'ai été élevé. Et toutes les écoles autour m'ont demandé de venir. Donc, j'ai un certain nombre de rendez-vous avec ces écoles pour témoigner. Et je suis très heureux d'aller là-bas. Et surtout de montrer à ces jeunes dans ces écoles ce que leurs arrière-grands-parents ont fait et comment ils se sont conduits.
Vous avez le sentiment, vous, d'avoir manqué de cette base entre vos parents et vos parents adoptifs un court moment pendant cette guerre avec des parents dont vous n'aviez pas de nouvelles. Vous avez eu ce sentiment de manquer de cette stabilité-là dont on a besoin enfant ?
Non, j'étais bien dans la famille, j'étais bien. Ce qui a été beaucoup plus dur, c'est après, parce que je veux dire, mes parents sont des Alsaciens de souche, et ça a été dur de m'acclimater et puis de connaître le judaïsme. Bon, quand on vous dit, voilà, à 8 ans, t'es juif, voilà comment c'est. Le premier Pessah a été difficile pour moi, sans parler du reste.
le récit de Roland Lévy a soulevé de nombreuses questions chez les élèves.
Est-ce que vous avez porté l'étoile quand vous étiez à la campagne ou pas ?
Non, l'étoile n'a été portée, autant que je sache, que dans les grandes villes. Non, dans les campagnes, il n'y avait pas d'étoile. Mais j'étais pas censé être juif. Parce que pour porter l'étoile, il fallait aussi aller se déclarer à la mairie. Et beaucoup de gens, qui, notamment à Paris, ne se sont pas déclarés, ont eu la vie sauve. Mais vous savez, il y a tout. Il y a des gens qui sont allés régulièrement à l'école avec l'étoile. Et ils n'ont pas été pris. Quand il y avait des photos de classe, j'ai des amis qui ont fait des photos de classe, les autres élèves se mettaient devant pour qu'on ne voyait pas l'étoile.
En tout, c'était quoi votre ressenti ? Est-ce que là-bas, vous viviez une bonne vie ? Enfin, genre, est-ce que vous étiez heureux quand
très
vous étiez
heureux.
Là-bas ?
Ah oui, oui, sans problème. Oui. C'était strictement, c'est pour ça que j'ai dit, là, cette jeune fille, là, ce qu'elle a lu, on avait dû me le prendre à moi. C'est exactement ça.
On se rend compte dans certaines histoires qu'en fait, il y a des enfants qui se sont moulés dans la position où on les mettait et qui ont essayé de devenir comme les autres là où ils étaient. Donc, certains ont fait semblant d'être comme les autres, mais ils étaient peut-être plus grands que Roland Lévy, parce qu'il était tout petit, il avait quand même 2 ans. Hein, donc, 2 ans, je pense qu'il avait le manque de sa mère au départ, à mon avis. Il y a quand même eu...
Vous mangez quoi là-bas ?
On mangeait bien. Hein. C'est-à-dire, vous savez, c'était en autarcie. On élevait des pigeons, des poulets, des lapins et tout ça. Il y avait des légumes, on manquait de choses. Bon, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de sardines, il n'y avait pas de fruits exotiques, il y avait tout ça. Hein. Il n'y avait pas de bonbons. Hein.
Monsieur, que vous étiez un enfant caché, est-ce que vous en avez voulu à vos parents ou vous en foutiez un peu ?
Ben, la suite, si vous voulez, c'est que petit à petit, je crois que j'ai retrouvé ma mère, mais mon père, non. On n'a jamais discuté. Non, on n'avait pas d'atome crochu, vous voyez. Ma mère, je crois qu'elle m'a récupéré, je pourrais dire, à 95%, vous voyez. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que je l'ai aimée ou est-ce que je l'ai respectée ? Je sais pas, pour ce qu'elle a fait. Parce que vous savez, j'ai eu des enfants qui sont très grands maintenant, j'ai eu des petits-enfants, et je me dis, quand votre gosse vous le donnez à des gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez rien, c'est fou. Vous savez, j'ai un collègue, ça a été l'inverse. Il a été mis dans une famille, les parents ont payé. Et les parents, à un moment donné, n'ont plus pu payer, mais il a eu une vie épouvantable. Il dormait dans les tables, il n'avait pas à manger, il était battu, il a eu une vie épouvantable. Bon, il s'en est sorti par miracle, mais ça a été horrible. Et moi, j'étais comme un prince. Et puis après, quand j'étais plus grand, quand j'allais en vacances là-bas, que je travaillais et tout, chaque été, alors chaque fois on allait à Bordeaux, c'est à 80 km, le tonton m'achetait des vêtements, m'achetait mes livres d'école, etc. C'était...
Aussi une question, est-ce que, une fois que la guerre était finie, est-ce que vous avez cherché à comprendre en fait pourquoi tout s'est passé comme ça ? Ou alors est-ce que vous êtes resté un peu distant à ça ? Vous ne voulez pas revenir sur ce
problème ? Non, je voudrais comprendre, j'ai toujours pas compris. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette détermination à l'extermination ? J'aimerais bien comprendre, oui. Ouais, j'aimerais bien comprendre. Et donc, c'est une très bonne question.
Mathilde Mertz, Auchan.